L'Assemblée nationale a réinscrit à son ordre du jour la proposition de loi visant à renforcer le droit à l'avortement. Le délai légal pour recourir à une interruption volontaire de grossesse devrait ainsi passer de 12 à 14 semaines. Le texte a aussi pour objet de supprimer pour les professionnels de santé la clause de conscience propre à cet acte. Et puis il y a évidemment d'autres nombreuses mesures. Pour nous aider à décrypter ce projet de loi et mieux comprendre les conséquences de son application, nous recevons ce matin la gynécologue Marielle Charvet. Bonjour docteur.
Bonjour madame.
Docteur Marielle Charvet, quels sont, pour bien comprendre en fait ce qui est en jeu, quelles sont les différences entre un fœtus de 12 semaines par rapport à un fœtus de 14 semaines?
Alors à 12 semaines, le fœtus est plus petit, fait 10 mm pour 45 grammes. Tous ses organes sont en place. Le pénis est déjà visible chez le petit garçon, les cheveux commencent à apparaître, ainsi que des mouvements coordonnés. Pour la mère, les nausées disparaissent, le ventre et les seins s'alourdissent. À 14 semaines, le fœtus fait 14 cm pour 110 grammes.
Donc il a doublé de volume quasiment.
Il a doublé de volume. Ouais. Sa croissance s'accélère, ses organes sont fonctionnels. L'apparence du fœtus est vraiment celle d'un petit être humain. Il tourne les yeux, il commence à sentir, entendre les bruits du corps de sa mère comme les bruits du cœur.
Le Collège national des gynécologues et obstétriciens français a indiqué, je les cite, « Entre 12 et 14 semaines de grossesse, le geste d'IVG chirurgical change de nature ». Qu'est-ce qu'ils veulent dire par là?
Alors, en fait, sur le plan technique, le geste reste le même, puisque c'est une aspiration. Et ce geste est déjà pratiqué à des termes plus avancés lorsque les grossesses sont interrompues spontanément. Donc, on ne peut pas dire que le geste change vraiment de nature, mais le fait que le fœtus est plus gros rend l'acte plus difficile. Son crâne s'est ossifié, le diamètre de sa tête fait presque 5 cm et le placenta qui est plus gros saigne plus. Voilà. D'où les risques plus importants au niveau de cet acte pour la femme.
Alors, on reviendra effectivement sur les conséquences, mais qu'en disent les médecins?
Je dirais d'abord que pour les détracteurs de l'IVG, nul n'est besoin de souligner les détails de la technique pour ne pas impressionner nos concitoyens. Voilà, donc je n'en dirai pas plus.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un frein psychologique qui s'applique aux médecins aussi pour réaliser un acte et passer de 12 à 14 semaines?
Oui, alors pour les médecins, effectivement, sur le plan psychologique, c'est plus difficile de faire cet acte plus tard parce que justement, le fœtus étant plus gros, on ne peut plus se cacher qu'on élimine vraiment un petit être humain.
Mmh. Et alors justement, vous parliez des conséquences de l'allongement du délai de l'IVG pour les femmes. Est-ce que vous pouvez nous les détailler, ces conséquences?
Alors, le plus souvent, elle sera dans un premier temps, en tout cas, soulagée. Et il n'y aura aucune suite grave, en tout cas apparemment. Dans 1% des cas, il peut y avoir une perforation utérine lors de la dilatation du col ou de l'aspiration, une déchirure du col, une hémorragie. Plus rarement, une plaie de l'intestin, de la vessie ou des gros vaisseaux, nécessitant une célioscopie ou une chirurgie par laparotomie. Il peut y avoir des infections utérines ou une rétention de l'œuf. Quelle que soit la technique, il peut y avoir dans les suites une difficulté à être de nouveau enceinte et très exceptionnellement un risque de transfusion sanguine, un risque vital. Je signalerai les signes d'alerte après IVG, une fièvre supérieure à 38,5 à deux reprises, des douleurs ne cédant pas au calmant et des saignements qui persistent, nécessitent à consulter en urgence. Il y a aussi les conséquences psychologiques pour la femme qui sont peu mentionnées en France. Elles apparaissent souvent à distance, parfois aux dates anniversaires, avec de la tristesse, dépression, baisse de libido, mais elles ne semblent pas toucher toutes les femmes.
Oui, et vous, en tant que gynécologue, dans votre cabinet, vous avez reçu des femmes qui avaient été confrontées à l'avortement et qui,
oui,
des années après...
Oui, particulièrement, j'étais très frappée par cela au début de mon activité, il y a 30 ans, où les femmes étaient très... Où beaucoup de femmes se sont écroulées sur mon bureau, très affectées par un avortement dont elles n'avaient souvent pas pu parler. Je pense qu'aujourd'hui, avec la plus grande tolérance de l'avortement, Je vois moins ce genre de choses, mais je continue à constater que ça reste une épreuve douloureuse pour les femmes.
Je précise que le Conseil consultatif national d'éthique a été consulté en vue de ce projet de loi, dit ne pas avoir d'objection sur le plan médical à cet allongement des délais. Donc nous parlons d'un allongement de 12 à 14 semaines pour l'interruption volontaire de grossesse. Mais il reconnaît pourtant que plus l'avortement est tardif, plus ses conséquences psychologiques sont lourdes pour les femmes et aussi pour les soignants. Donc ça résume effectivement ce que vous disiez, non seulement pour les médecins, mais aussi pour les femmes. Je voulais quand même vous demander si cet allongement, puisque nous parlions des médecins, cet allongement du délai de l'interruption volontaire de grossesse de 12 à 14 semaines pourrait avoir des répercussions sur la pratique professionnelle des professionnels de santé. Est-ce qu'il y a des médecins qui vont dire « je ne fais plus ». Je ne pratique plus d'avortement.
C'est ce que j'ai lu. C'est un certain nombre de médecins refuseraient complètement de pratiquer des avortements si on leur impose de les faire jusqu'à 14 semaines de grossesse, donc 16 semaines d'aménorrhée.
D'accord. Dans le projet de loi, il y a aussi une possibilité, justement, pour répondre à ce risque de désaffection, de recourir aux sages-femmes.
Oui.
Quelle est votre vision sur cette proposition? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou est-ce que les sages-femmes sont faites pour autre chose?
Personnellement, je pense que les médecins et les sages-femmes sont faits pour autre chose. Voilà, cette loi nous impose de... Et puis, c'est une réalité qu'un certain nombre de femmes se trouvent dans cette situation. Voilà. Je ne sais pas si la solution est de faire appel aux sages-femmes. En tout cas, c'est elles qui ont le choix de faire ou pas cet acte. Et effectivement, le Collège des sages-femmes est en train de se positionner peut-être pour que la clause de conscience soit supprimée chez les sages-femmes.
Ah, voilà. Alors justement, vous me tendez la perche pour aborder cette question de la clause de conscience, puisque effectivement dans ce projet de loi qui est mis à l'ordre du jour par Christophe Castaner, le président du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale, et qui va être débattu jusqu'au 3 décembre, il y a cette question de suppression de la clause de conscience spécifique à l'avortement pour les soignants. Qu'est-ce que cette disposition entraîne, docteur Marielle Charvet?
Alors déjà, je voudrais rappeler ce qu'est la clause de conscience. C'est pour le médecin ou le professionnel de santé le droit de refuser la réalisation d'un acte médical pourtant autorisé par la loi, mais qu'il estimerait contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques. Cependant, le médecin, comme tout autre professionnel de santé, je pense, doit alors avertir clairement le patient dès la première consultation et lui donner tout moyen et conseil pour qu'il puisse obtenir une prise en charge adaptée et rapide.
Alors, si on veut être très concret, dans votre cabinet, par exemple, si vous avez eu l'occasion d'avoir une femme qui est venue consulter en vue d'un avortement, si vous vouliez faire agir votre clause de conscience, qu'est-ce que vous pouviez avoir comme attitude?
Alors déjà, j'accueille cette patiente que souvent je connais déjà. Je parle avec elle, j'entends sa souffrance ou sa difficulté. Et suite à ça, je l'informe des possibilités qui existent pour elle et je l'adresse à des personnes capables de l'aider à aller au bout de son souhait.
Et donc, supprimer cette clause de conscience, qu'est-ce que ça va impliquer pour les médecins et puis les personnels soignants? Parce que c'est plus large, vous parliez des sages-femmes tout à l'heure.
Alors, je ne pense pas que cette clause de conscience puisse être supprimée, puisque 90% des médecins, gynécologues, obstétriciens se sont positionnés contre. Je pense qu'il est très important que chacun puisse travailler en son âme et conscience. Ceci dit, voilà, nous sommes soumis à de fortes pressions en faveur de la liberté de la femme, voilà. Mais cette conception de liberté est discutable.
Oui. Le projet de loi dont nous parlons, une fois qu'il va être voté par le député, il va être inscrit à l'ordre du jour du Sénat. Et puis, enfin, à cause de l'interruption du travail parlementaire à l'approche des élections, en fait, la lecture définitive du texte verra avoir lieu avant le 27 février 2022. Donc en fait, le temps est assez contraint. Est-ce que vraiment il y a, à votre avis, une urgence de prendre ces dispositions d'un allongement du délai, de l'interruption volontaire de grossesse, de la suspension de la clause de conscience, et puis de l'ouverture aux sages-femmes de la possibilité de pratiquer ces IVG. Est-ce que finalement c'est le bon combat ?
Alors, il se trouve qu'on est confronté à deux courants idéologiques très forts en France. L'un où l'IVG est un combat de liberté totale pour la femme et qui veut aller jusqu'au droit d'avorter jusqu'au terme de la grossesse, et pour lequel l'augmentation d'IVG est plutôt un signe de liberté des femmes qui augmentent, quelles que soient les conséquences. Un autre courant qui souhaiterait plutôt améliorer l'éducation des jeunes dans les écoles, éducation à la vie affective et sexuelle, de manière à ce que chacun, garçon ou fille, soit apte à choisir le moment qui sera opportun pour lui pour avoir ou pas une grossesse.
Et dans votre cabinet, pareil, je me fie à votre expérience de gynécologue. Vous voyez des femmes qui viennent consulter. Est-ce que vous parliez d'éducation, est-ce que vous avez vous aussi une mission d'éducation pour essayer de responsabiliser en fait?
Oui, je pense que par rapport à mes patientes, je leur ai toujours déjà expliqué tous les moyens de contraception et pour essayer de trouver avec elles le moyen qui sera le plus adapté à tel moment de leur vie, ce moyen pouvant être remis en cause à d'autres moments, mais aussi en ne leur cachant pas que l'avortement est quelque chose de difficile à vivre et que c'est important de faire tout ce qu'on peut pour éviter d'en arriver là.
Est-ce que vous pensez qu'il y a une forme de déresponsabilisation aussi qui est générale vis-à-vis de l'acte sexuel et de la grossesse ?
Oui, je pense que ce mouvement idéologique de droit de la femme ne va pas forcément dans le sens d'un bien de la femme, et que je pense qu'une femme est plus heureuse lorsqu'elle a une maîtrise de sa contraception et qu'elle peut choisir vraiment ce qui est bon pour elle, alors que souvent des femmes se retrouvent dans cette situation de demander un avortement parce qu'elles ont été dépassées par la situation. Elles ne sont pas forcément, elles ne sont pas coupables de cela. La vie n'est pas facile et je comprends très bien que des femmes puissent se trouver dans une situation qui les a dépassées. Mais tout ce que l'éducation pourra apporter pour les aider à être en situation de maîtriser leur fertilité sera, je pense, source de plus d'épanouissement pour les femmes.
Peut-être un chiffre quand même pour terminer cet entretien sur le nombre d'interruptions volontaires de grossesse. Est-ce qu'on est à un niveau plus bas que l'année dernière?
Alors, ce chiffre qui était autour de 245 000 entre les années 76-81 était passé en 86 à 220 000. Il est monté jusqu'à 232 000 en 2019 et serait à nouveau un peu plus bas en 2020. Voilà, une bonne nouvelle, une diminution des avortements chez les 15-17 ans et chez les 17-19 ans. Peut-être grâce à l'accessibilité à la contraception qui est plus facile et peut-être une meilleure information chez ces jeunes.
Bon, on termine effectivement sur cette note d'espérance. Merci beaucoup, docteur Marielle Charvet, d'être venue nous donner des précisions sur ce projet de loi concernant l'aménagement de l'interruption volontaire de grossesse.